Culture Musique voyage dans les internets. Une série présentée par Julien Goetz et réalisée par Olivier Bétard.
Bien le bonjour à toutes et tous. Nous continuons aujourd'hui notre voyage en musique dans les internets. Internet qui vous permet peut-être d'écouter cette émission en ce moment même. Ce réseau des réseaux qui, comme on l'a vu dans le premier épisode, est le résultat d'une rencontre improbable. Un mélange fou qui s'est opéré principalement aux États-Unis entre les idéaux hippies, les utopies technologiques, les financements du ministère de la Défense et une bonne dose de LSD. Poursuivons donc aujourd'hui notre errance dans ces tuyaux numériques et partons à la rencontre de celles et ceux qui, dans les années 70 et 80, les ont bidouillés, triturés, détournés. Car, dès ses origines, Internet est un réseau fabriqué par et pour ses utilisateurs. Des chercheurs, des étudiants, des exilés baignant dans la contre-culture du moment, contestant l'ordre établi et surtout prônant la libération de l'individu, le droit à l'autodétermination. Rappelez-vous le Whole Earth Catalogue de Stewart Brand et son sous-titre « Access to the Tools », « Accéder aux outils ». Ce catalogue, c'était quelque part un peu l'objet matérialisant une mouvance revenue à la mode aujourd'hui, le « Do it yourself », « Fais-le toi-même ». Et si tu trouves les outils pour le faire, alors partage-les. L'ordinateur personnel et sa promesse de connexion à un réseau mondial sera l'un de ces outils.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Everybody. En 1969, sur la bande originale du film Midnight Cowboy, Harry Nilsson chante l'histoire de cet homme qui part prendre la mer, loin de tous ceux qui lui parlent ou qui le regardent. Il ne les entend pas. Ne les voit pas, il veut juste partir, tel un cow-boy solitaire, là où le soleil continue de briller à travers la pluie. Cette même année, parmi les textes de lecteurs publiés dans l'un des suppléments du Whole Earth Catalogue, il y a ceci. Il y a encore des cow-boys nomades de nos jours. Vivant un autre style de vie, ils attendent que le média électronique, et tout le monde sait ce qu'il en est, fasse voler en éclats l'esprit de l'américain banlieusard moyen. En attendant, les cow-boys nomades hors la loi fument de l'astragale autour de feux de camps électriques. Des cow-boys nomades donc, mais avec cette idée de hors-la-loi, presque revendiquée, car elle rejoint cette aspiration à ne pas se soumettre aux règles d'une administration centralisatrice. Et hors-la-loi est une notion que l'on associe aussi souvent à l'une des figures de la révolution informatique, le hacker, à tort. À l'origine, en anglais, le terme hacker désigne des bidouilleurs, des personnes qui détournent simplement une technique ou une technologie pour résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés. Et le lien entre ces hackers et l'informatique vient d'une histoire de petit train.
Ride this train to any little trail in the west. You may find me riding alone late at night. My poor old horse don't understand why I ride at night and sleep in the daytime. I want to ride into the bushes and hide every time I hear a noise. Well, that's all I've done for months now, running and hiding. You see, my name is John Wesley Hardin. No, I'm not proud of the name anymore. They say I've killed 40 men. They tell a lot of different stories about it. Of course, I guess I'm to blame for a lot of it. I killed the first time when I was 15 to save my life, but then I had to do it again. Then every bum in the country that was fast with a gun started looking for me. They called me the fastest gun alive, and I guess I was fast, or I wouldn't be alive now. It got to where I couldn't walk down the street or in a saloon without some trigger-happy cowpoke wanting to prove he could outdraw old John Wesley Hardin. Maybe I got a little bitter and didn't care whether I killed or not for a while. And I never quite forgot when the authorities in Huntsville prison dragged me out in the snow naked and horsewhipped me. Well, that's why I'm riding at night. I want to go where no one has ever seen me. Where I won't even have to wear a gun. Maybe I can settle down in a quiet little town somewhere. Even get a job on the right side of the law. Who knows? Maybe in a new town, the people will let me forget. I ride an old paint. He's on the weary side. And I'm a saddle tramp. About to cross the great divide, where there's grass in the coulees and water in the draw, and a 40-pound saddle won't make us both wrong. Slow rider, move on a little more. The sky boss is waiting at the big ranch house door.
À la fin de l'année 1959, Johnny Cash enregistre son album Ride This Train, dont est extrait ce titre Slow Rider. Son premier album concept où tous les morceaux commencent par un récit parlé sur un simple son de locomotive. En cette même fin des années 50, des étudiants du MIT, le célèbre Massachusetts Institute of Technology, passent leur temps libre à faire tourner des petits trains sur des circuits. Une partie des membres de ce Tech Model Railroad Club se penche notamment sur la programmation du système de contrôle du circuit. Comment diriger telle ou telle locomotive ? À l'époque, les techniques sont balbutiantes et toutes les trouvailles sont bonnes pour améliorer le système. Ces ingénieurs passionnés passent des nuits entières à bricoler leurs trains, et c'est souvent du système D. Ces mêmes bidouilleurs vont donc naturellement finir par détourner d'autres machines du MIT pour améliorer leur circuit, des ordinateurs. Et progressivement, ils vont délaisser les petits trains pour s'intéresser principalement au fonctionnement de ces grosses machines qui remplissent encore des pièces entières. On est loin des ordinateurs personnels qui verront le jour 15 ans plus tard. Mais l'idée est là, il ne reste qu'à trouver le bon hack. Un hacker détourne une technologie pour résoudre un problème qu'il rencontre. Et dès l'origine, dès le Tech Model Railroad Club, quand on hack, on le fait surtout par pur plaisir du jeu. Dans les années qui suivent, le principal problème des hackers informatiques va être la centralisation des machines et de l'information. Il va donc falloir trouver des chemins de traverse.
I make the vest. heart, I believe until you leave, and then I cry. Oh, darling, well, oh, darling, oh, darling, make up your mind. Oh, I can't stand your loving, honey, it's tearing me apart. You done got my soul, but now you're after my heart. Well, don't hurt me, darling, like you know how to do so well. I got one consolation, I just said, well, it was the last time, was the last time, was the last time, but darling, please. Told me that you love me, and I believe you, darling, but you lied, you know it's true. Hold on to my heart, I believe until you leave, and then I cry.
The Last Time, un morceau du groupe Big Brother and the Holding Company. Vous vous souvenez? Ils étaient sur la scène du Trips Festival, organisé par Stewart Brand. En 1972, 13 ans après ces histoires de hack et de petits trains, ce groupe inspire le titre d'une nouvelle revue qui fait son apparition. Le People's Computer Company. Un titre qui affirme clairement l'horizon à venir que les gens, les citoyens, puissent prendre possession de l'ordinateur. Bob Albrecht, l'un des fondateurs du journal, est fortement inspiré par le Whole Earth Catalog de Stewart Brand. Les premiers numéros de la revue sont d'ailleurs imprimés sur les mêmes machines que le catalogue. Tout ce petit monde se croise souvent. Le People's Computer Company devient rapidement une référence pour tous les bidouilleurs férus d'informatique. Dans ses pages se mêlent des conseils techniques pointus et la pensée des néo-communalistes, ces membres de communautés hippies partis s'exiler pour tenter de faire société autrement, celles et ceux à qui s'adresse en partie le Whole Earth Catalog. Une fois de plus, dans ce mélange, l'image de l'informatique se transforme. Comme avec cette une du People's Computer Company de janvier 1975. Elle présente l'Alter, l'un des premiers micro-ordinateurs vendus au public. Et plutôt que de le montrer dans un obscur laboratoire, la photo met en scène cette machine au milieu d'un désert. L'ordinateur n'est plus une affaire de technocrate, c'est un outil d'évasion, de retour à la Terre. Les amateurs bricoleurs du magazine n'ont plus qu'un rêve, rendre cet horizon concret. Petit flashback. En 1971, un an avant la création du People's Computer Company, Stewart Brand, l'homme des connexions, organise une soirée au Palais des Arts et des Sciences de San Francisco. Il veut fêter ce qu'il pense être l'édition finale de son Whole Earth Catalog. Le Golden Toad Orchestra mène la danse à coups de gigues irlandaises, suivie par des clowns, des gymnastes, des danseuses du ventre. Une procession de saltimbanques envahit le lieu. À 22h30, c'est le clou du spectacle. Le maître de cérémonie annonce « Stewart m'a donné l'un des outils utilisés par le Whole Earth Catalog. Il s'agit de $20,000. Utilisez-les comme une semence. Le Whole Earth Catalog n'est plus. Les graines ont déjà été plantées. Le sort de cet argent est entre les mains de votre décision collective. Il y a d'un côté les microphones et de l'autre des projets. » Tout est possible.
Mmh.
Et oui, parmi les musiques jouées par ce Golden Toad Orchestra, il y a aussi de la musique sacrée tibétaine. Peut-être pour faire infuser les meilleures idées à travers la méditation. Dans les heures qui suivent, de nombreuses personnes se succèdent au micro, proposant leurs projets. Mais aucun ne récolte l'adhésion globale du public. Les 20 000 dollars restent intouchés. À 3 heures du matin, un certain Fred Moore prend la parole. Il dénonce l'obsession de l'argent, de ses billets qui trônent sur la scène. Il prend l'exemple d'un poète qui a demandé un peu plus tôt dans la soirée de l'argent pour éditer un recueil. Spontanément, quelqu'un dans la foule lui lance « Je sais où tu peux trouver du papier !» Et quelqu'un d'autre enchaîne en disant au poète « Et moi je sais où tu peux trouver une imprimante pas chère !» Fred Moore est convaincu que la seule connexion entre les personnes présentes peut permettre de faire bien plus de choses que ces 20 000 dollars. Le vote qui suit est cacophonique. Une fois de plus, aucune décision n'est prise. Pendant le reste de la nuit, Fred Moore continue à passer de groupe en groupe pour convaincre que l'essentiel est dans l'union des individus bien plus que dans l'argent. Au petit matin, il ne reste plus qu'une vingtaine de personnes et elles décident d'attribuer l'argent à Fred Moore. L'histoire ne dit pas ce que Moore fit de cet argent. Fervent activiste politique, il l'a sans doute distribué à différents groupes. Mais cet épisode fut pour lui une révélation. Réunir du monde pour construire collectivement des outils sans argent peut faire des miracles. En 1961, pour la première fois, un ordinateur joue de la musique. Vous l'entendez en ce moment, c'est Daisy Bell. Cette vieille mélodie sort d'un IBM 7094. La machine mesure 1,50 m de large pour 1 m de profondeur. Pas franchement le prototype d'un ordinateur personnel. Quatorze ans plus tard, en 1975, une bande de passionnés d'informatique se réunit au sein du Homebrew Computer Club. Un club créé justement par Fred Moore, dont le mot d'ordre est « Give to help others ». Donne pour aider les autres. Sous-entendu, partage tes recettes. Fidèle à la révélation qu'il a eue quelques années plus tôt lors de la fête organisée par Stewart Brand, Fred Moore monte ce club pour réunir tous ceux qui voudraient bidouiller les machines informatiques. Notamment l'altère qui trônait dans le désert sur la couverture du People's Computer Company. Bob Albrecht, le fondateur du magazine, fait d'ailleurs partie des premiers membres du Homebrew Computer Club. C'est un petit milieu. Suivant presque inconsciemment le cœur de la philosophie des hackers, ceux du Tech Model Railroad Club, Moore était convaincu que le travail ouvert et collaboratif ferait des miracles. Et il avait raison. Sans s'en rendre compte, son Homebrew Computer Club attira dès ses débuts les plus ingénieux hackers bidouilleurs informatiques de Californie. Lors de la quatrième réunion du club, l'un d'eux, Steve Dompier, fait une démonstration qui va sidérer tout le monde. Il a réussi à créer un programme qui permet de jouer de la musique avec l'altère. Dompier met tout en place. Il lance le programme et d'un coup, la mélodie sort des haut-parleurs d'une radio AM posée sur le haut de la machine. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him, they can
tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the
on the Hill des Beatles. Voilà la mélodie qui est sortie de la radio crachotante. Tout bêtement, le premier morceau qui est tombé sous la main de Don Pied lorsqu'il a codé son programme. Et ces bidouilleurs du Homebrew Computer Club devaient se sentir, eux aussi, comme des fous sur la montagne, les seuls à voir la révolution arriver. Avec cette démonstration, le rêve des hackers du Homebrew Computer Club devient concret. Ils peuvent modifier, arranger et faire évoluer des ordinateurs. Et pas des mastodontes centralisés, non, des machines portables à taille humaine qu'ils pourront emmener chez eux. L'épopée de l'informatique personnelle peut commencer. Dans ce Homebrew Computer Club, il y a notamment un certain Steve Wozniak, talentueux hacker lui aussi. Tout comme ses potes du club, il bidouille sa propre machine et en 1976, il ramène au club sa dernière trouvaille qu'il a fabriquée tout seul, l'Apple 1. Il l'a bricolé juste pour le plaisir. Un écran, un clavier, l'un des premiers micro-ordinateurs personnels était né. Et un autre, Steve, Jobs celui-ci, l'ami de fac de Wozniak, allait entrer dans la danse pour mettre en vente cette trouvaille.
Ok, what is there? You'll hear it, yeah, just the first occasion you get.
I did with my thumb. Yeah.
Les Beatles chantent « Two of Us » et le duo Wozniak-Jobs donne naissance à Apple. Comme un autre duo également né à la même époque, Bill Gates et Paul Allen, qui dépose la marque Microsoft pour mettre en vente le programme qu'ils avaient codé. Quelques décennies plus tard, Bill Gates racontera que ce « Two of Us » des Beatles est une de ses chansons préférées car elle lui rappelle ainsi qu'à Steve Jobs cette phase où tous deux avançaient ensemble dans la création et la compétition. Comme c'est mignon. En réalité, Gates, dès l'origine, est aux antipodes d'Apple et surtout de Steve Wozniak. En 1976, Bill Gates se fend d'une lettre ouverte aux bricoleurs. Il y accuse les bidouilleurs des clubs amateurs de voler son travail en réutilisant son programme sans le payer. Là où les hackers du Homebrew Computer Club défendent un travail ouvert et contributif, Gates réclame des droits d'auteur pour poursuivre le développement d'un logiciel qu'il compte bien maintenir fermé pour pouvoir en garder le monopole. Basculons dans les années 80 avec ce morceau Computer World du groupe Kraftwerk, sorti en 1981 sur leur album éponyme. En ce début de décennie, l'ordinateur arrive réellement sur le devant de la scène. En 1982, le magazine Newsweek en fait l'homme de l'année. ARPANET, ce réseau né sur la côte ouest américaine, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, conçu par des chercheurs, testeurs de LSD et financé par le ministère de la Défense, continue de s'étendre. En 1984, plus de 1000 serveurs sont connectés et le mouvement hacker s'étend lui aussi. En Allemagne, en 1981, naît le Chaos Computer Club, le CCC. Selon ses propres membres, sa définition est la suivante. Une communauté intergalactique œuvrant pour la liberté d'information et en faveur d'un droit fondamental, communiquer librement dans le monde entier. Au CCC, l'éthique hacker, telle que l'a définie Stephen Levy dans son livre référence Hackers, paru en 1984, est la même qu'outre-Atlantique. L'accès aux ordinateurs doit être illimité et total, l'information doit être libre, il faut se méfier de l'autorité, prôner la décentralisation, les hackers doivent être jugés sur leurs actes et non leurs diplômes, et l'on peut créer de l'art et de la beauté avec les ordinateurs.
Attention, please. A news flash has this moment arrived from the Malabar front. Our forces in South India
Les membres du Chaos Computer Club assument malgré tout une position légèrement différente des bidouilleurs du Homebrew Computer Club. Eux sont des activistes de la libre communication et ils revendiquent ce rôle politique dans la cité. Face au Big Brother is watching you, les membres du CCC répondent « Small Brother is slashing through », le petit frère se faufile partout. En 1984, le duo Eurythmics compose la bande originale du film 1984, inspiré de la nouvelle de George Orwell et réalisé par Michael Radford. Cette même année, des membres du Chaos Computer Club détournent 135 000 Deutschmark d'une banque de Hambourg. Ils l'utilisent pour montrer qu'une faille de sécurité existe dans le Bildschmiertext, un système proche du Minitel français. Le lendemain, ils rendent l'argent au cours d'une conférence de presse mémorable où ils expliquent qu'ils avaient prévenu à plusieurs reprises la poste allemande de cette faille. Ils ont détourné l'argent pour apporter des faits concrets. Cette action du CCC est retentissante et elle démontre que les hackers ne sont pas des pirates, mais bien des bidouilleurs dont le savoir-faire, la vigilance et l'éthique sont essentiels dans une société de plus en plus numérisée.
Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi,
ne quittez pas bureau du bonheur,
où il est?
Nous recherchons votre petit cœur.
Dites-moi,
toutes les données dans l'ordinateur,
s'il vous plaît,
soient programmées.
Oh, 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 oh. C'est arrivé hier matin, avant cela tout allait bien. Je me promenais dans la rue quand soudain il a dit: je ne comprends vraiment pas pourquoi on s'entendait bien lui et moi. Il est parti sans prévenir, sans rien dire. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur, j'ai un certificat signé de mon docteur. Dites-moi,
ne quittez pas bureau du bonheur.
Dites-moi,
toutes les données dans l'ordinateur,
s'il vous plaît,
sont programmées.
Wow, 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 wow. J'ai attendu toute la nuit, mais il était vraiment parti. Il faut venir à mon secours, vous êtes mon dernier recours. Je vous promets de vous donner tous les indices, toutes les données. Il faut vraiment que
pendant ce temps, en France, l'administration est convaincue que le Minitel, lancé en 1982, est l'avenir de la communication. Il faut quand même noter que ce médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques, Minitel, est à l'opposé de l'ARPANET américain. Là où le réseau américain propose une structure décentralisée, où toute la valeur vient de l'information et du savoir produit par les utilisateurs, le système français opte pour une structure où toute l'information est stockée en son centre, vers lequel viennent se connecter des utilisateurs bêtes. Heureusement, l'esprit des hackers ne connaît pas de frontières. En 1983, un gamin de 12 ans pirate la messagerie interne utilisée par les techniciens de Gretel, un service d'information piloté par le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Il parvient à récupérer un mot de passe et il commence à utiliser la messagerie pour échanger avec ses amis. Rapidement dépassé, les techniciens décident de rendre public ce système de messagerie à l'origine qui leur était réservé. Cet ancêtre du chat est donc né d'un hack, un détournement.
Thank you.
Le film War Games, sorti en 1983, dont vous entendez un extrait de la bande originale, raconte l'histoire d'un jeune hacker qui s'introduit dans un supercalculateur militaire par hasard. Pensant lancer un jeu, il déclenche une simulation de guerre nucléaire et le film raconte la panique qui s'ensuit, mettant le monde au bord d'une troisième guerre mondiale. On est bien loin de l'éthique hacker racontée par Stephen Levy dans son livre sorti un an plus tard. Le livre qu'il va présenter à Stewart Brand, toujours lui. Et c'est la découverte de ce livre qui va pousser Brand à organiser en novembre 84 la première conférence de hackers à Fort Cronkite, à quelques kilomètres de San Francisco. Trois jours intenses où se retrouvent 150 passionnés d'informatique, dont des noms connus comme Steve Wozniak, mais aussi Richard Stallman, pionnier du logiciel libre. Pour Brand, c'est l'occasion de comprendre in situ qui sont ces hackers que Stephen Levy décrit dans son livre. Et il ne sera pas déçu. Voici ce que Brand écrit peu après. Il me semble que, depuis les pères fondateurs qui ont rédigé la Constitution, les États-Unis n'ont pas connu de groupe aussi intéressant intellectuellement et utile que les hackers. Je ne connais aucun autre groupe qui se soit formé pour libérer une technologie et y soit parvenu. Mais les choses ont bien changé depuis la virée en bus des Merry Pranksters et l'aventure du Whole Earth Catalog. Le son disco-funk de Kool & The Gang a remplacé les mélodies psychédéliques et le mouvement néo-communaliste a quasi disparu. La plupart de ces expériences communautaires ont échoué. C'est une partie des utopies portées par le Whole Earth Catalog qui s'éteint. Mais les hackers, qui faisaient aussi partie des lecteurs du catalogue, ouvrent une nouvelle voie. Pour Stewart Brand, ces bidouilleurs de génie portent la promesse d'un nouvel espace, un cyberespace, où l'idéal des communautés hippies disparues pourrait bien ressusciter. En 1985, il crée donc The Well, le Whole Earth Electronic Link. Comme le dit son titre, un lien électronique avec le magazine d'origine qui fut l'un des points de ralliement des utopies des années 60, le Whole Earth Catalogue. Pourquoi, me direz-vous, mettre cette version live at Woodstock de ce titre de Sly and the Family Stone qui date donc de 1969? Eh bien, parce que Larry Brilliant, cofondateur avec Stewart Brand de The Well, est un ancien de la communauté Hog Farm, reconverti dans l'informatique. Et cette communauté hippie fut l'un des organisateurs de Woodstock. Et devinez quoi ? Les premiers animateurs de The Well sont aussi issus de Hog Farm. Pas étonnant donc que l'esprit d'une certaine contre-culture américaine des années 60 infuse dans ce qui va devenir l'une des premières communautés virtuelles. C'est comme ça qu'Howard Rheingold qualifie The Well dans un court article paru en 1987. Rheingold sait de quoi il parle puisqu'il est l'un des membres actifs de cette communauté connectée. Lorsque Larry Brilliant propose à Stewart Brandt de mettre en ligne le Whole Earth Catalogue, Brandt accepte à un détail près. Il ne voit pas l'intérêt de mettre les rubriques du catalogue en ligne. Il veut que les utilisateurs puissent choisir eux-mêmes leur sujet de discussion. Il ne veut pas recopier le contenu du Whole Earth Catalogue sur le média numérique, mais sa démarche, ouvrir un lieu d'échange en espérant que d'autres se joignent à la conversation. I Need a Miracle, chantent les Grateful Dead dans ce morceau, Et le miracle a bien eu lieu. Le pari de Stewart Brand a marché. Une communauté virtuelle est née autour du Whole Earth Electrolink Link, The Well. Les Deadheads, les fans des Grateful Dead, furent d'ailleurs parmi les premiers à investir The Well. On y retrouve, une fois de plus, ce mélange d'univers différents, si caractéristique de Stewart Brand. D'anciens habitués du Whole Earth catalogue, bien sûr, mais aussi des hackers présents à la conférence de Fort Cronkite, ou des journalistes du New York Times et de Rolling Stones. Techniquement, comme beaucoup d'autres à l'époque, The Well fonctionne grâce au BBS, le Bulletin Board System, qui permet d'échanger des messages ou des fichiers, l'ancêtre des forums que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est dans les règles établies par Brandt et ses compagnons que The Well propose une expérience différente. Autogouvernance et liberté d'accès font partie des maîtres mots. Les échanges n'ont pour limite que la seule imagination des utilisateurs ou des utilisatrices. Voilà comment Maria Syndicus, l'une des premières membres de The Well, raconte son expérience. Je pouvais être à mon bureau en train de travailler et en même temps poster des messages dans certaines conférences, envoyer des messages électroniques. Les relations se développaient à toute vitesse, les idées se répandaient comme des traînées de poudre. Je n'avais jamais autant ri, débattu de façon si acharnée, ingéré autant de nouvelles idées. Le Well me tenait en haleine. Avec cette communauté virtuelle, naît donc une nouvelle forme d'interaction sociale qui nous est bien plus familière aujourd'hui. The Well ouvre la possibilité d'échanges instantanés et horizontaux, quel que soit le lieu, l'âge ou le sexe. En plein essor du féminisme, les femmes sont d'ailleurs très actives dans la communauté. Comme le Whole Earth catalogue, The Well n'est qu'un outil, mais un outil social et designé pour que ses utilisateurs puissent s'en saisir. Voilà ce qu'écrivaient Alison Kennedy et Ken Goffman en 1988 dans le tout premier numéro de leur revue cyberpunk Mondo 2000. La cybertoile est l'endroit où tout se passe. Les vieilles élites de l'information s'effondrent, les mômes ont pris le contrôle. Et nous voilà au terme de ce nouveau voyage réalisé par Olivier Bétard et Cédric Chatelus. Un an plus tard, en 1989, dans un laboratoire du CERN en Suisse, un certain Tim Berners-Lee créera le World Wide Web. Le World Wide Web, et non pas Wild, même si c'est sauvage. Mais gardons cette histoire pour notre prochain épisode. Celui qui nous emmènera à la découverte des années 90, où John Perry Barlow, parolier des Grateful Dead, écrit une déclaration d'indépendance du cyberespace, et où Richard Stallman chante le logiciel libre. Internet nous réserve encore de belles surprises. D'ici là, surfez bien, quelles que soient les vagues.